question. Je vais donc, en effet, aborder ce premier exposé pour essayer de voir comment cette théorie est apparue. Elle n'est pas apparue par hasard. Et donc, nous allons voir, en effet, que d'abord, l'idée d'évolution, très rapidement, est quelque chose qui est très ancien. Déjà, chez les Grecs, on avait une idée de transformation d'éléments très simples, comme l'eau, par exemple, qui pouvait être à l'origine d'êtres vivants, qui pouvaient être de plus en plus complexes. Aristote aussi a parlé d'une différenciation des êtres vivants sous l'influence du milieu. Ça, ce sont des idées très très anciennes, mais qui évidemment n'avaient pas toutes les explications scientifiques d'aujourd'hui. Alors, Darwin a en effet été, comme je l'ai dit ce matin, en contact avec différents auteurs qui l'ont influencé. Et le premier dont je vais vous parler, c'est l'auteur de la théologie naturelle, qui est William Paley. William Paley, donc, a écrit des ouvrages, dont un qui s'appelle justement la théologie naturelle, dans lequel, donc, il exprime l'idée que les espèces sont parfaitement adaptées à leur milieu. Et cette adaptation parfaite montre qu'il y a un concepteur intelligent qui est derrière tout ça et qui a planifié tout ça. Donc il dit que c'est pas possible que ce soit autrement, et donc vous connaissez certainement l'idée, parce qu'elle a été souvent répétée, selon laquelle donc en se promenant sur une plage, si vous voyez des cailloux, bon, vous arrivez plus ou moins à les expliquer sans l'intervention d'une intelligence quelconque. Si au contraire vous continuez à vous promener et vous tombez sur une montre, là, vous dites, là, c'est forcément un individu intelligent qui est à l'origine de ça, parce qu'on ne voit pas comment une montre avec tous ses rouages complexes a pu se former toute seule. Donc, évidemment, cette idée va être en faveur de la fixité des espèces. C'est-à-dire que le plan de Dieu, c'est de créer un certain nombre d'espèces qui ne bougent plus. Donc Darwin a été influencé par cette idée du fixisme, qui d'ailleurs était partagée par l'ensemble des chrétiens de l'époque, qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui, mais de manière plus limitée. Alors qu'est-ce que c'est que le fixisme ? C'est donc l'idée que Dieu a créé toutes les espèces, sans exception, et ces espèces n'ont pas varié depuis. Donc, il n'y a pas eu de nouvelles espèces après la création. Donc, Darwin était fixiste, et il le déclare lui-même. Au moment où il rentre, il s'embarque sur le Beagle, c'est-à-dire ce bateau qui va le transporter tout autour du monde pendant 5 ans. Il est fixiste. D'où vient ce fixisme? Eh bien, c'est une idée qui dérive d'une mauvaise interprétation de l'expression « selon son espèce » dans la Genèse. Vous savez que cette expression revient fréquemment dans la Genèse, puisque dans cette expression revient au moment de la création des plantes, des animaux. Dieu créa les plantes, Dieu créa les animaux selon leur espèce. Alors, une certaine lecture de la Genèse fait penser, lorsque cette lecture est faite très littéralement, à l'idée que Dieu a créé toutes les espèces. Tout simplement parce que on donne à ce mot espèce ici le sens qu'il a actuellement, c'est-à-dire le sens espèce biologique. Une espèce biologique, pour vous donner une définition simple, mais en fait c'est bien plus complexe que ça, et il y a des exceptions qui ne correspondent pas tout à fait à cette définition. Une espèce biologique, c'est l'ensemble des individus qui ont une ressemblance assez forte et qui sont capables de se reproduire entre eux. Donc, ici, si vous considérez ce terme comme l'espèce biologique, donc ça veut dire que si Dieu a créé les animaux et les plantes selon leur espèce, ça veut dire qu'il les a créées toutes. Et que depuis, il ne s'est rien produit de nouveau. Donc, sachez aussi qu'on retrouve cette expression au moment où les animaux rentrent dans l'arche. Vous avez un couple d'animaux qui rentrent dans l'arche selon leur espèce. Vous avez sept couples d'animaux impurs. Ça fait beaucoup de monde. Si vous prenez toutes les espèces qui existent aujourd'hui, et ça se compte par millions, les espèces, et on découvre tous les jours. J'en ai moi-même découvert aussi des nouvelles. Fossiles, mais des nouvelles quand même. Bien. Donc ça fait beaucoup de monde, et même si toutes les espèces aquatiques ne sont pas présentes dans l'arche, j'en ne vois pas comment tout ça pourra rentrer dans l'arche si toutes les espèces sont représentées. Donc en fait, ce terme-là dérive d'un terme hébraïque qui n'a pas la signification d'espèce biologique. C'est un terme qui est beaucoup plus vague, qui veut dire une sorte, un type, un genre de, mais qui n'a pas une connotation scientifique. Donc, de là à dire qu'est-ce que Dieu a créé, on n'en sait rien. En tout cas, ce n'est pas forcément toutes les espèces biologiques. Linné, le fameux botaniste suédois, a inventé la classification des espèces. Et pour lui, c'était clair, cette classification n'était possible que dans la mesure où, justement, les espèces sont fixes. Si les espèces ne sont pas fixes, eh bien, naturellement, on ne peut pas classer quelque chose qui est en perpétuel changement. Donc, lui a travaillé avec cette conception des espèces fixes. Et donc, sa classification représentait pour lui la mise en évidence de l'ordre que Dieu a mis dans la création. Son travail consistait à retrouver cet ordre. Cuvier, un paléontologue, pensait aussi que le fixisme était la réalité, correspondait à la réalité, puisque dans les fossiles, eh bien, il ne voyait pas les formes intermédiaires. Donc, autrement dit, les espèces, on les voit à l'état fossile, elles restent telles quelles, on ne voit pas leurs ancêtres, on ne voit pas ce qu'elles vont donner après. Donc, puisqu'il n'y a pas de forme intermédiaire, les espèces sont bien fixes. D'autre part, Darwin a été en contact avec les écrits de deux personnes. Tout d'abord, Erasmus Darwin, qui était son propre grand-père. Il était scientifique, Erasmus Darwin, et il avait écrit un livre qui développait une théorie transformiste, c'est comme ça qu'on l'appelait autrefois, le transformisme, non pas l'évolutionnisme, et donc où il voyait, où il décrivait une variation des espèces. D'autre part, 50 ans avant l'origine des espèces, Darwin, la même année de la naissance de Darwin, Lamarck, a publié aussi un livre où vous avez donc ici toute une théorie assez scientifique de l'évolution des espèces, et pour les deux, ce qui était le plus important à l'origine de cette variation des espèces, c'était le milieu, l'action directe du milieu. C'était le milieu qui déclenchait ces variations. Darwin n'était pas d'accord ni avec son grand-père ni avec Lamarck, parce que pour lui, leur façon d'étudier la question n'était pas la bonne. Il y avait une question de méthode qu'ils n'approuvaient pas, et aussi les résultats. Ils ne croyaient pas que le milieu intervenait directement sur les espèces. Il a eu comme ami un géologue du nom de Charles Lyell. Et ce Charles Lyell a développé toute une conception de la géologie qui repose sur l'idée de l'uniformitarisme. Qu'est-ce que c'est que l'uniformitarisme ? C'est le fait, tout simplement, que les phénomènes géologiques se passent d'une manière très lente et de manière constante. Vous n'avez qu'à observer ce qui se passe aujourd'hui, l'érosion, la sédimentation, tous ces phénomènes géologiques sont très lents. Très très lents, ce qui fait que d'un siècle à l'autre, vous voyez très peu de différence. Les montagnes sont érodées, mais vous ne les voyez pas disparaître du jour au lendemain. Les vallées reçoivent des sédiments, mais ne sont pas comblées non plus du jour au lendemain. Donc il admet bien qu'il peut y avoir des catastrophes ponctuelles, ça c'est d'accord, où il y a tout d'un coup l'accélération des phénomènes, mais c'est très limité, très localisé. Alors, il dit, puisque aujourd'hui les phénomènes sont très lents, il n'y a aucune raison que dans le passé ce soit différent. Autrement dit, donc, la géologie, que les phénomènes géologiques qu'on observe aujourd'hui doivent être exactement les mêmes qu'autrefois, vraisemblablement il a en grande partie raison, mais la vitesse des phénomènes doit toujours être la même, c'est-à-dire une vitesse très lente, sauf exception localement. Autrement dit, c'est clair qu'avec lui, disparaissent la notion de déluge, énorme catastrophe, pour lui c'est impossible, et deuxièmement, bien sûr, un autre élément, c'est que si les choses se passent lentement, ça veut dire qu'il faut beaucoup de temps. Donc, il y a l'idée de temps géologique très lent qui se retrouve derrière cette géologie uniformitariste. Il se trouve aussi que Darwin va être en contact avec un livre qui a été écrit par Malthus. Malthus est donc un religieux d'ailleurs, mais qui s'intéresse, lui, à la démographie. Il a écrit tout un essai sur la population, et il a donc montré que l'humanité va se trouver face à des problèmes tôt ou tard. Parce qu'en effet, les ressources qui permettent la survie de l'espèce humaine augmentent suivant une droite, augmentent, mais pas aussi vite que la démographie. La démographie commence peut-être lentement, mais elle augmente brutalement, et on est bien placé pour s'en rendre compte aujourd'hui, la démographie est galopante. Donc à un moment donné, les ressources vont être insuffisantes. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ou bien il va y avoir rien, aucune mesure qui sera prise, et vous allez avoir les gens les plus défavorisés qui vont être dans des situations telles qu'ils vont mourir. Famine, maladie, etc. Et donc, une bonne partie de la population humaine va disparaître à cause de ça. Sinon, il y a la guerre, bien sûr. Là, ça élimine des gens. Ça peut résoudre le problème, mais enfin, vous voyez à quel prix. Ou bien alors, il est un des premiers à l'avoir dit, vous contrôlez les naissances. Et ça date d'avant Darwin. Hein. Donc, ça, c'est ce qu'il a appelé la sélection naturelle chez l'espèce humaine. Et Darwin, quand il a lu ça, il s'est dit, mais si ça existe dans l'espèce humaine, pourquoi ça n'existerait pas chez les espèces animales et même végétales. Donc, c'est une idée qui lui a paru intéressante. Vous voyez donc que Darwin va partir sur le Beagle, et voyez donc son voyage va partir de l'Angleterre, bien sûr, et il va descendre là, le long de la côte, faire le tour, ici, et il va remonter en Angleterre. Ça va durer donc de 1831 à 1836. Vous voyez ici, j'ai marqué par ce cercle rouge une étape importante de son voyage, c'est les îles Galapagos. C'est dans cette île qu'il va faire des observations qui vont être pour lui très importante. Ça ne veut pas dire que les autres observations ne vont pas lui donner des idées, mais traditionnellement, c'est là-dessus qu'on insiste, donc les îles Galapagos, où il va étudier principalement les tortues, mais aussi les pinsons, des petits oiseaux. Et donc, ces observations, il va, et là je vais simplement parler des pinsons, il va les faire et il va prendre des échantillons de ces pinsons. Et vous voyez qu'ils se différencient très peu par la taille, mais par la couleur, par la forme du bec surtout. Et il s'est aperçu que, suivant la forme du bec, ces pinsons avaient un mode de nutrition qui pouvait être différent, mode de vie d'une manière générale différent. Donc, il a envoyé ça en Angleterre chez un spécialiste de l'ornithologie, et lui, il a dit, mais ces différentes variétés, puisque Darwin employait simplement le terme de variété, sans savoir pas trop de quoi il s'agissait, sont bien des espèces différentes. Et il en a dénombré 13. Donc, Darwin a tenté d'expliquer ça. Et vous allez voir, c'est très important ça, parce que ça va introduire une idée qui va à l'encontre du fixisme. Donc ici, vous voyez l'archipel, vous avez des îles grandes, d'autres petites, plus ou moins éloignées. Et donc, il a pu observer sur un certain nombre de ces îles, des formes différentes de pinsons. Donc vous voyez, les becs peuvent varier. Et donc, il a même vu dans certaines îles qu'il pouvait y avoir deux formes différentes de pinsons, mais qui n'entraient pas en compétition, tout simplement parce qu'ils se nourrissaient de manière différente. Donc, il a pu remarquer qu'il y avait une adaptation précise sur chaque île, et naturellement, ne croyez pas parce que ces îles sont proches les unes des autres que le climat est identique. Non. Chaque île a son propre climat, et même dans certaines zones de l'île, il y a des zones climatiques différentes. Donc, cette adaptation précise, comment peut-on l'expliquer? Il rappelle aussi une chose très importante, c'est que ces îles sont des îles volcaniques. Par définition, une île volcanique est une île qui se forme progressivement. Et il y en a encore qui se forment aujourd'hui. Ce sont des volcans donc qui proviennent du fond sous-marin et qui donc se constituent progressivement et qui montent en altitude. À un moment donné, elles sortent du niveau de la mer et ça forme une île. Autrement dit, ça n'a pas toujours existé à la surface de la Terre. Donc quand la Terre a existé depuis le départ, même quand il y avait les océans, ces îles n'existaient pas forcément. Autrement dit, la question se pose, en d'autres termes, Darwin n'a pas employé ces termes, mais si nous, on se pose la question, est-ce que Dieu a commencé à créer, chaque fois qu'une île apparaît, des espèces qui sont adaptées à chaque île? Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a un nouveau milieu écologique, Dieu va se mettre à créer une nouvelle espèce, exprès. Vous allez me dire, Dieu est tout puissant, peut le faire, il n'y a aucun problème, il peut le faire. Aucun doute là-dessus. Le problème, est-ce qu'il l'a fait? J'étais pas là, je ne peux pas vous dire à coup sûr s'il l'a fait ou pas fait, mais ça quand même pose des questions, parce qu'il y a des îles qui apparaissent encore aujourd'hui. Bon, petite remarque en passant. Donc, alors, son explication à lui, c'est que, certainement, alors, puisqu'il avait observé que sur le continent sud-américain, qui est quand même à 900 km, il y a aussi des pinsons, mais très peu diversifiés. Vous avez une immensité, un territoire assez immense, avec des pinsons très peu diversifiés. Alors que là, sur un tout petit territoire, vous avez une diversification extraordinaire. Donc il s'est dit, ben voilà, vous avez ici des oiseaux qui ont migré, c'est fréquent chez les oiseaux, et qui ont dû se poser sur cet archipel, et ils se sont implantés là, progressivement, avec du temps, bien sûr, pas forcément des millions et des millions d'années, mais avec du temps, la sélection naturelle, et c'est ça qui, pour lui, était le point important, la sélection naturelle a permis
cette adaptation. Alors que je vous explique qu'est-ce que ça veut dire dans son esprit. Alors, il ne connaissait pas les mutations. Aujourd'hui, on connaît les mutations. Il n'avait pas l'idée des mutations. C'était quelque chose qui, à l'époque, n'était pas connu. Simplement, il pensait que, de manière fortuite, aléatoire, il se présentait spontanément des modifications chez tel ou tel individu. Et c'est la sélection naturelle qui retenait tel et tel individu en fonction du caractère modifié. Et si ce caractère modifié est plus favorable en fonction du milieu, il va être retenu. Si ce caractère est défavorable, il ne sera pas retenu. Donc, de fil en aiguille, progressivement, de génération en génération, on va aboutir à cette différenciation. Et comme on est arrivé à l'idée que c'était des espèces différentes, donc, à partir d'une seule espèce venue d'Amérique du Sud, eh bien, on a obtenu plusieurs espèces. Ces espèces n'ont pas été créées par Dieu. L'ancêtre, peut-être, mais j'en sais rien. Mais c'est pas Dieu qui les a créés. Alors, bon, on va voir si c'est quelque chose qui tient debout. Plus tard, les doutes de Darwin sur la théologie naturelle. Comme je l'ai dit ce matin, Darwin, donc, forcément, s'est mis à douter. Le vieil argument d'une finalité dans la nature, comme le présente Paley, qui me semblait autrefois si concluant, est tombé depuis la découverte de la sélection naturelle. Autrement dit, ce que on pouvait prêter à Dieu autrefois est en fait le résultat d'un phénomène naturel qui est la sélection naturelle. Donc Darwin va subir une sorte de conversion. C'est une véritable conversion. Très lente. C'est pas passé du jour au lendemain, hein. À l'idée de variabilité des espèces. Et on en a un écho, puisqu'en 1844, n'y voyait aucune liaison avec quoi que ce soit, ce que malheureusement certains font dans notre Église, ça arrive. Attention. Donc, Darwin donc écrit à son ami Joseph Hooker, une lettre dans laquelle il dit « Je suis presque convaincu, contrairement à mon opinion de départ, que les espèces, j'ai l'impression d'avouer un meurtre, ne sont pas immuables. » Et oui, il dit « J'ai l'impression d'avouer un meurtre », ça veut dire que quand il déclare ça, il sait que c'est quelque chose qui n'est pas admis. Et qu'il le fait... avec une certaine appréhension. Et on est en 1844, il est rentré de son voyage, c'était 1836. Donc, il s'est passé déjà 8 ans. Donc, il est presque convaincu, ça veut dire qu'il n'est pas encore convaincu. Et puis, il commence à observer dans la nature le fait que le mâle est présent, est bien présent. Voici un autre exemple. Je vous ai cité ce matin le cas du chat, le cas du coucou. Voilà un autre. Un exemple qu'il cite, un exemple précis. Vous voyez cette mouche qui s'appelle la mouche ichneumone. Vous voyez qu'elle est en train d'injecter ici, par cette espèce de seringue, si on peut dire, dans cette chenille, bien vivante, des œufs. Ces œufs vont à un moment donné éclore, s'ouvrir, et il va sortir de ces œufs des larves. Qui vont manger la chenille toujours vivante de l'intérieur. Alors, ça c'est un peu cruel quand même. Hein ? Je vous signale que cette mouche n'est capable de se reproduire que de cette façon. C'est ainsi. Bon, le chat, je ne reviens pas là-dessus. Mais il a pris aussi certaines fourmis qui exploitent les pucerons, par exemple. Bref, il pourrait comme ça multiplier tous ces exemples d'une sophistication extraordinaire que l'on trouve dans la nature, sophistication du mâle. Et donc, peut-on attribuer ça à Dieu? Selon Darwin, Dieu n'est pas en cause. C'est la sélection naturelle. Il m'a toujours semblé plus satisfaisant de considérer l'immense douleur, l'immense quantité de douleur et de souffrance dans ce monde comme le résultat inévitable de lois générales, plutôt que de l'intervention directe de Dieu. En quelque sorte, il fait en sorte que Dieu ne soit pas le responsable de ça. Les arguments de Darwin pour appuyer sa théorie sont les suivants. S'il y a différenciation chez les espèces, c'est parce qu'il y a certaines conditions, et notamment l'isolement géographique. C'est le cas dans les îles, c'est le cas dans des lacs, c'est le cas dans des vallées reculées, c'est le cas dans une forêt, par exemple, qui est difficilement pénétrable. Vous avez donc tous les ingrédients qui permettraient à des espèces de se modifier et de donner de nouvelles espèces. C'est donc cette modification des espèces et l'apparition de nouvelles espèces, c'est ce qu'on appelle la spéciation. Il a remarqué que les espèces des Galapagos avaient une affinité avec celles d'Amérique du Sud. Donc, pour lui, c'est clair, cette multiplicité des espèces des Galapagos vient d'espèces bien plus limitées du continent. Et, d'après lui, donc, la théorie de la création est incapable d'expliquer ces faits. Donc la migration et le transport, parce qu'il y a certaines espèces qui sont transportées, sont une des raisons pour lesquelles ce transfert dans d'autres régions a pu se faire. Donc les conséquences de la théorie de Darwin sont les suivantes. Dieu n'a pas créé de nouvelles espèces chaque fois qu'une île apparaît. Accumulation de petits changements sur de longues périodes de temps, ça c'est pour lui quelque chose d'important, parce que il lui faut du temps pour sa théorie. Donc, accumulation de petits changements. Darwin, en effet, était partisan de changements très faibles, mais qui s'accumulent les uns aux autres avec du temps. Et donc, on va passer de formes simples à des formes de plus en plus complexes. Alors, il faut savoir que Darwin lui-même, dans son ouvrage, L'origine des espèces, consacre un chapitre entier aux difficultés de sa théorie. Donc, il reconnaît que sa théorie a des difficultés. Il va défendre, évidemment, sa théorie malgré tout. La rareté, d'abord, des formes intermédiaires. Il était conscient que, dans le registre fossile, les espèces intermédiaires, les formes intermédiaires, étaient rares. Et que, souvent, on voyait plutôt une apparition soudaine de groupes fossiles dans les couches fossilifères anciennes. Et donc, il admettait que, si on n'arrivait pas à résoudre ce problème, on puisse rejeter sa théorie. Il le dit lui-même. D'autre part, un autre problème majeur qui l'empêchait de dormir, il le disait lui-même, production par la sélection naturelle d'organes complexes, et notamment, il parlait de l'œil. L'œil humain est un formidable organe qui est extrêmement difficile à comprendre comment il aurait pu se former de manière totalement aléatoire. D'autre part, l'acquisition d'instincts sophistiqués, comme ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, le chat, la mouche, ça, c'est des choses qui sont difficilement explicables, simplement par la sélection naturelle, et ça, il l'admet, mais pour lui, c'est la seule solution. Alors, les lois de l'évolution, selon Darwin, c'est donc le fait que la variabilité, une fois qu'elle a agit sur des individus, elle va se transmettre de génération en génération. Les ressources, si elles sont limitées, vont entraîner une compétition. Qui dit compétition va entraîner forcément la survie et la reproduction des seuls individus qui ont des caractères avantageux. Les autres vont être éliminés. Donc, c'est la sélection, ce qu'on appelle donc classiquement la sélection des plus aptes. Donc, Darwin, alors c'est là que je vais quand même me mouiller en disant que Darwin a eu, sur certains plans, raison. En quoi a-t-il eu raison? Eh bien, en effet, les facteurs comme la sélection naturelle, la compétition, sont des choses qui sont évidentes. Vous ne pouvez pas nier ça. Donc il y a des choses qui agissent dans la nature et qui font qu'il y a une sélection. Qu'il y a une formation réelle de nouvelles espèces. C'est vrai que, alors certains vous diront, oui mais on l'a jamais vu se produire sous nos yeux. C'est évident. Vous ne pouvez pas être derrière chaque individu, puis d'autre part, la modification d'une espèce en une autre n'est pas quelque chose de spectaculaire. N'attendez pas le passage d'un dinosaure à un oiseau, par exemple. C'est pas ça du tout. Il s'agit d'une modification génétique qui porte sur certains petits caractères et qui font que, malgré tout, maintenant, ces individus ne peuvent plus se reproduire entre eux. Donc, ils sont cousins, mais d'espèces différentes. Et ça, aujourd'hui, dans des régions reculées, ça a été observé. Dans des lacs, dans des îles, avec bien d'autres exemples. Donc aujourd'hui, il est difficile de refuser l'idée que des nouvelles espèces soient apparues. Mais encore une fois, je dis bien des espèces qui sont peu différentes de l'espèce ancestrale. Il ne s'agit pas d'un saut évolutif important. Il s'agit, alors vous allez me dire, oui mais alors si une espèce en donne une autre, et puis après cette autre va donner une autre espèce, est-ce que de fil en aiguille, vous allez arriver à des choses complètement différentes? Théoriquement oui, mais dans la pratique c'est très difficile à penser, puisque il faudrait une variation très importante des milieux, parce que la sélection naturelle agit en fonction du milieu. Le milieu n'agit pas directement sur les espèces, mais la sélection va agir en fonction des circonstances écologiques. Donc là, manifestement, aujourd'hui, il est très difficile de rester fixiste. Vous avez le droit de croire toujours au fixisme, mais vous y croyez parce que vous y croyez. Scientifiquement, ce sera difficile de soutenir encore cette idée. Très difficile. Et il a anticipé les mutations. Il ne savait pas ce que c'était, mais en fait, c'était bien les mutations qui ont entraîné les modifications. Maintenant, rassurez-vous, Darwin s'est aussi trompé. Quand je dis rassurez-vous, c'est-à-dire ne pensez pas que je pense qu'il a toujours raison. Rassurez-vous sur mon compte. Alors donc, la sélection naturelle est capable de produire une augmentation de la diversité, aucun problème. Mais est-ce qu'elle est capable de produire une augmentation de la complexité? C'est là toute la question. Et c'est là que les divergences de points de vue vont être marqués. Les évolutionnistes sont en train d'essayer d'expliquer par la génétique que la complexité peut augmenter grâce à la formation de nouveaux gènes. Et c'est là, en ce moment, ils sont en train, ça fait des années, mais il vient de sortir là un nouvel article sur cette question, et je dois vous dire donc que par tous les moyens, si on veut expliquer que la sélection naturelle permettra une augmentation de la complexité, il va falloir donner une explication génétique de ça. Et pour l'instant, on y travaille. Est-ce que les résultats sont à la hauteur? Peut-être pas encore tout à fait. Formation de nouvelles familles d'espèces, de nouveaux plans d'organisation durant de longues périodes de temps non confirmées par les observations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est qu'une famille? Vous avez la famille des canidés, c'est-à-dire les chiens, les loups, les renards, et tout ce que vous voulez, les coyotes. Une autre famille, les félidés, c'est-à-dire les félins, les chats, les tigres, les lions, les panthères, etc. Ce sont deux familles complètement différentes. Ce sont des mammifères, les deux. Mais vous remarquez que si vous prenez les individus de la même famille, enfin les espèces différentes de la même famille, il y a des énormes ressemblances. La taille n'est pas la même, le comportement pas toujours les mêmes, il vaut mieux pour votre chat qu'il ne soit pas comme un lion, mais il est déjà assez féroce, je vous l'ai déjà dit. Mais ce sont des griffes identiques, des dents identiques, beaucoup de ressemblances. Dans la famille des canidés, c'est la même chose. Mais si vous prenez un chien et un chat, ils ont quatre pattes, une queue, une tête, c'est vrai, mais là s'arrête la ressemblance. Il y a des grosses différences génétiques, enfin des grosses, relativement importantes, différences génétiques et morphologiques, physiologiques, etc. Et donc, le problème est de savoir est-ce que réellement cette théorie permet de trouver un ancêtre de ces différentes familles, pour ne prendre que les mammifères, des mammifères. C'est là toute la question. Et c'est là que les formes intermédiaires manquent, en tout cas ne sont pas suffisamment nombreuses pour penser, démontrer tout ça. Donc la position de Darwin elle a été exprimée donc par différents auteurs, pressée par de nombreux correspondants. Darwin insiste toujours sur le fait que l'évolution est compatible avec la foi en une divinité. En effet, Darwin l'a dit à plusieurs reprises, on peut croire à ma théorie tout en croyant en Dieu, tout en étant même chrétien. Donc pour lui, il n'était plus chrétien, mais il pensait qu'il n'y avait pas une opposition totale entre les deux. C'est facile à dire, c'est plus difficile à comprendre. Ainsi, parlant de son agnosticisme, qui gagnait du terrain, à mesure qu'il avançait en âge, il prit soin d'insérer cette restriction, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'il était agnostique, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il se reposait des questions, et peut-être bien qu'il y a un Dieu, malgré tout. Dominique Lecourt, qui est un auteur assez prolixe en France, hein, qui s'est intéressé beaucoup à ces questions philosophie de la science, dit « Darwin s'avance vers l'agnosticisme, ce n'est pas une position d'athéisme militant, mais une position d'abstention. » Donc Darwin va rester là. J'ai parlé des tourments ce matin, c'est bien ça. Cependant, il faut savoir que les partisans de Darwin ont été bien plus loin que lui. Et Dominique Lecourt va en effet montrer les utilisations abusives de cette théorie. Par exemple, il parle de Thomas Huxley, un ami, et il dit, un ami de Darwin, donc, dès la publication de l'Origine des espèces, on avait vu se manifester des adeptes qui se réclamaient de Darwin pour promouvoir une philosophie militante ouvertement athée. Thomas Huxley, l'ami intime de Darwin, qui se considérait comme un soldat de la science, entrait en lutte ouverte contre la religion. J'ai dit ce matin, Darwin avait reproché à Huxley d'être trop véhément. Naturellement, même du temps de Darwin, ses partisans ont été assez véhément, et celui-ci, un Allemand, l'apôtre du darwinisme en Allemagne, vraiment, a été encore plus fort que Huxley. Il était donc un ardent défenseur de Darwin, mais il se faisait aussi un héros d'un monisme anti-religieux et anti-clérical, où Dieu n'est que la loi causale de la nature. Autrement dit, Dieu n'est que la cause première, après c'est terminé, Dieu n'intervient plus. En plus de ça, donc, il avait un discours effectivement extrêmement anticlérical, anti-religieux, ce que Darwin n'avait jamais vu dans son idée. Darwin, donc, lui conseille aussi d'être moins polémique. Alors, bien entendu, les partisans plus récents de Darwin ont poussé encore plus loin les choses. Vous avez ici le personnage de Julian Huxley, qui est le petit-fils de Thomas Huxley, scientifique important, un des pères de la théorie moderne de l'évolution, qui a été, sachez-le, puisque vous avez ici le siège de l'UNESCO, ici à Bruxelles, hein, c'est bien ça? Oui, non? Non, c'est à Paris, alors. C'est à Paris, pardon. C'est vraiment terrible. Hein. Alors, donc, il a été le premier directeur de l'UNESCO. Or, l'UNESCO est une entreprise humaniste, hein, une des plus importantes. Et donc, voilà ce que, en 1959, pour fêter le cinquantenaire de l'origine des espèces, voici le genre de discours qu'il a tenu à Chicago. Dans le système de la pensée évolutionniste, il n'y a plus de besoin et de place pour le surnaturel. L'homme évolutionniste ne peut plus dans sa solitude se réfugier dans les bras de l'image d'un père divinisé qu'il a lui-même créé, ni échapper à la responsabilité de prendre les décisions en s'abritant sous le parapluie de l'autorité divine, ni se dispenser de la lourde tâche d'affronter ses problèmes et de planifier son avenir en se reposant sur la volonté d'une providence omnisciente, mais malheureusement impénétrable. Donc naturellement, là c'est clair, Dieu, c'est quelque chose qui est une notion que l'homme a inventée lui-même, et qu'il est temps de s'en débarrasser, puisque enfin l'homme est suffisamment évolué pour se débrouiller tout seul. Vous voyez le résultat d'ailleurs. Alors, en effet, les évolutionnistes d'aujourd'hui, plus que jamais, sont très dogmatiques. Et Dominique Lecourt, encore une fois, le souligne. Cet exclusivisme tourne au dogmatisme, voire au sectarisme, pur et simple. Aux États-Unis, tout particulièrement, où, selon le mot assassin de Pierre-Paul Grasset, un scientifique français qui est mort déjà depuis quelque temps, le darwinisme ainsi conçu devient une manière de religion universitaire dont Julian Huxley a rédigé la Bible. Donc on assiste, même dans les termes de Lecourt, à une espèce de nouvelle religion qui apparaît, avec son dogmatisme, son sectarisme. Et d'ailleurs, c'est clair aujourd'hui, tout évolutionniste qui commence à dire ouais, non, c'est pas tout à fait ça, je suis plus d'accord, il est éliminé. C'est le sectarisme. À force de présenter l'évolution comme un fait et de jouer à son propos du vocabulaire de la loi, les biologistes darwiniens ont plus d'une fois favorisé une dérive extrême de la pensée biologique vers un dogmatisme scientiste. Le scientisme, c'est l'idée que la science va résoudre tous les problèmes, va trouver toutes les solutions à tout. C'est donc une énorme confiance dans la science, donc une énorme confiance dans l'homme, évidemment. Les outrances des ultra-darwinistes. Alors, vous avez deux grands ultra-darwinistes, Richard Dawkins, qui publie constamment des ouvrages, donc l'horloger aveugle était l'un des plus importants. L'horloger aveugle, c'est une allusion à William Paley, l'horloger de William Paley. Lui, l'horloger aveugle, c'est la sélection naturelle. Ça se fait par le hasard. C'est lui qui a fait toute une... il a fait placarder sur
sur les bus à Londres des panneaux disant que Dieu probablement n'existe pas. Donc c'est un athée relativement militant. C'est grâce à Darwin que l'athéisme a pu être une solution satisfaisante pour l'intellect. Donc voilà ce qu'il dit. Vous avez donc le dernier ouvrage qui est sorti, qui a été traduit en français. Vous voyez le titre. C'est pas le titre original, mais les éditeurs français en ont rajouté. Pour en finir avec Dieu. C'est pas tout à fait le contenu du livre, mais enfin, ça vous donne une idée. Donc, Dieu est écarté. Le Dieu des déistes est sûrement un progrès par rapport.
Deuxième ultra-darwiniste, c'est Daniel Dennett. Il a écrit un livre dans lequel il dit « L'idée dangereuse de Darwin touche plus profondément nos croyances fondamentales que l'ont admis beaucoup de ses défenseurs, même au fond d'eux-mêmes. Le Dieu bienveillant qui a façonné avec amour chacun de nous, ce Dieu-là est comme le Père Noël, un mythe de l'enfance auquel un adulte sain, sans illusion, ne pourrait croire littéralement. Ce Dieu-là doit être abandonné purement et simplement. » Donc ici, vous avez l'ultra-darwinisme exposé dans sa dans son aspect le plus fort. Et là-dessus, d'ailleurs, les médias s'en font l'écho. Je ne sais pas si vous avez eu ça en Belgique. Dieu contre Darwin. La Bible contre Darwin, des articles qui s'intitulent « Le cauchemar de Dieu », entre parenthèses Darwin, « Le cauchemar de Dieu », « La mort scientifique de Dieu », « L'hérésie du Dieu programmeur », « L'inutilité de Dieu », « L'ADN, un Dieu moderne », « On a remis l'homme à sa place », etc. etc. Donc, il faut savoir que les médias, les journaux, ne vont pas s'embarrasser de nuances. Il faut faire vendre les journaux, donc on met des titres, qui sont des titres très frappants, et évidemment, c'est quelque chose qui va automatiquement entraîner des titres chocs, ça c'est clair. Donc, on peut se demander si Darwin a réellement tué Dieu, tué entre guillemets bien sûr. Et donc là, vous avez des gens qui ont écrit là-dessus à propos des pères de la théorie synthétique de l'évolution, la théorie moderne, Théodosius Dobzhansky, un des pères de cette théorie, dit ceci, il dit de cet homme, à l'instar de Théard de Chardin, Dobzhansky voyait un plan divin se réaliser dans l'évolution. Si Dieu n'intervenait pas de façon miraculeuse, il agissait néanmoins dans tous les événements. Donc voilà un évolutionniste qui croit en Dieu, tout en croyant en l'évolution. Ronald Fisher, un autre. Pour Fisher, la sélection naturelle était un mécanisme établi pour assurer un perfectionnement de la création. N'hésitant pas à faire référence au langage de la Genèse, il ajouta que le monde en était à son sixième jour, plutôt vers le matin, que l'artiste divin n'avait pas encore mis un terme à son travail. Le langage biblique. C'est quelqu'un qui fait des sermons dans des églises. Évolutionniste, bien sûr. Stephen Gould, un paléontologue qui est mort il y a quelques années seulement. Je crois de tout cœur à un concordat respectueux et même chaleureux entre les deux magistères de la science et de la religion. La religion ne peut plus dicter le contenu des conclusions factuelles relevant du magistère de la science et inversement, les scientifiques ne peuvent plus prétendre à une perspicacité supérieure quant à la vérité morale en s'appuyant sur leur meilleure connaissance de la constitution empirique du monde. Autrement dit, chacun a sa place, chacun est spécialiste dans son domaine et chacun devrait respecter le domaine de l'autre. Paul Clavier, un philosophe des sciences, dit ceci, comment expliquer l'existence du monde et de ses mécanismes ? Affirmer que la réponse est nécessairement athée, c'est commettre une intrusion de la méthodologie scientifique dans l'interrogation métaphysique. Jean Chaline, paléontologue, pour beaucoup de scientifiques dont je fais partie, l'idée d'un grand architecte s'impose à cause de la complexité fantastique de l'univers et du vivant, mais la science ne peut rien en dire. Donc en conclusion, nous ne savons pas tout, et Dieu s'adresse à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. » Eh bien, en fait, nous en sommes là. Darwin a proposé des explications. Il acceptait que Dieu intervienne. Mais, progressivement, les évolutionnistes ont écarté Dieu et en ont fait une nouvelle religion sans Dieu. C'est quelque chose, donc, qui fait abstraction du fait que la science ne peut pas tout connaître, ne peut pas expliquer tout. D'un autre côté, sachons aussi que ce n'est pas dans la Bible que nous allons avoir l'explication de tout non plus. Donc il faut savoir l'admettre. Voilà donc ici ce premier exposé. Et donc si vous avez des questions, le temps passe à une vitesse, si vous avez des questions à ce sujet, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais évidemment, le deuxième exposé sera plus sujet à des questions. Alors, il faut savoir, effectivement, qu'à partir du moment où un évolutionniste vous dit qu'il n'y a pas de Dieu, il sort de son domaine scientifique. Ça, c'est clair. Puisque la science ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas de Dieu, ou elle ne peut pas vous dire qu'il y a un Dieu. La science est incapable de démontrer Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce que la science ne peut étudier que ce qui est observable directement, ou indirectement grâce à des instruments. Mais Dieu n'est pas observable. Donc, Dieu ne peut pas être l'objet d'une étude scientifique. Donc, chaque fois qu'il s'exprime, c'est une affaire, effectivement, philosophique. Mais malheureusement, souvent, ils prétendent que c'est scientifique. Et ça, c'est une erreur. La science ne devrait jamais se permettre de dire ça. Jamais.